France Inter, le 18-20.
Plus d'Europe pour l'un, moins d'Europe, voire pas d'Europe du tout pour l'autre. Le 7 mai, les Français auront le choix entre deux visions totalement antagonistes de l'Union européenne. Emmanuel Macron, dont la qualification pour le second tour de la présidentielle a été saluée par Bruxelles et Berlin, entre autres, souhaite une Europe plus fédérale. Marine Le Pen, elle, ne rêve que d'une chose, que la France retrouve ses frontières et sa souveraineté dans tous les domaines. Mais au fait, quelle est la marge de manœuvre du président français vis-à-vis de l'Union? Est-il vraiment pieds et poings liés, comme le dit le Front National? La France a-t-elle plus à perdre qu'à gagner, à quitter l'Union européenne et la zone euro? On en débat ce soir au téléphone sonne sur France Inter avec deux eurodéputés. La centriste Sylvie Goulard, eurodéputée Modem, qui a rejoint Emmanuel Macron et le mouvement En Marche. Sylvie Goulard, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, auteur de L'Europe pour les nuls chez First Edition. Bonsoir Sylvie Goulard.
Bonsoir.
Avec nous également Édouard Ferrand, chef de la délégation FN au Parlement européen. Il est au téléphone avec nous. Bonsoir Monsieur Ferrand.
Bonsoir Madame.
Alors n'hésitez pas à interpeller nos invités sur les projets de Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour l'Union européenne. Vous pouvez le faire par mail franceinter.fr ou sur Twitter avec le mot Estelson. Vous pouvez aussi évidemment appeler le standard de France Inter, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et nous allons justement au standard de France Inter retrouver Francis. Bonsoir Francis.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Bienvenue à vous. Vous nous appelez
Merci.
De Sainte, c'est ça?
C'est ça, oui. Alors, juste une petite introduction par rapport à l'euro, à la monnaie qui nous incombe à tous, en fait, car moi, je n'ai pas un gros salaire. Donc, l'autre jour, j'ai voulu gonfler mes pneus dans une grande surface où j'ai l'habitude, et maintenant, c'est payant. Un euro. Il y a un monsieur qui me dit comme ça, je me demande quel Français aurait payé 6,50 francs à l'époque du franc pour gonfler ses pneus pour un peu d'air, quoi. Alors, ma question est simple. Faut-il persévérer dans le sens de cette Europe-là, que nous connaissons et dont déjà les Anglais veulent certainement s'en aller, peut-être d'autres aussi. La Grèce, on n'en entend plus parler que son problème. L'armée française, c'est la seule à bouger. Ou alors, faut-il, comme me propose Madame Le Pen, exploser les frontières, notamment celles de la France, pour revenir à notre monnaie, tout simplement.
Merci beaucoup, Francis, pour cette question qui a au moins le mérite de mettre les pieds dans le plat. Sylvie Goulard, que répondez-vous à Francis, l'euro?
Bonsoir Francis. Écoutez, d'abord, le fait qu'une grande surface fasse payer le gonflage des pneus n'est pas une décision européenne. Elle aurait pu intervenir si on avait eu le franc. Donc, à la fois, ça vous a choqué, mais ça n'a rien à voir avec l'euro en soi. Il y a des choses, on a beaucoup de toilettes payantes maintenant, ou des choses comme ça. C'est pas Bruxelles qui a décidé ça. Ce qui est très important, d'ailleurs, Claire, dans votre introduction, vous avez dit certains veulent plus d'Europe, moins d'Europe. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention à pas présenter tout à fait les choses de cette manière-là. L'euro, c'est notre monnaie. Il faut que ceux qui proposent d'en sortir expliquent comment ils procèdent et quelles sont les conséquences. Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit simplement d'envisager ce qui va se passer.
Et on va demander à Édouard Ferrand, effectivement,
oui,
comment
nous sommes convaincus que les gens ont assez de difficultés et qu'on ne va pas détruire le cadre dans lequel nous vivons sans prendre des précautions. Nous considérons qu'on peut améliorer les choses. Donc Emmanuel Macron fait des propositions de manière à ce que nous travaillions plus étroitement avec nos partenaires. Nous sommes allés déjà deux fois à Berlin ensemble pour convaincre les Allemands de bouger.
Parce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un problème avec l'euro, avec son niveau. En Europe.
Non, d'abord le niveau, vous savez, le niveau des monnaies aujourd'hui, les monnaies flottent dans le monde les unes par rapport aux autres. Et d'ailleurs, quand on promet une dévaluation, bien malin, qui pourra dire, quand nous reviendrions au franc, quel serait le niveau du franc? Si à ce moment-là, il n'y aurait pas des demandes de dévaluation de la part des monnaies du pays du Sud, pourquoi on a fait l'euro? On a fait l'euro pour se protéger contre le petit jeu des dévaluations dans lequel on l'a expérimenté. Ce que je dis, c'est pas farfelu, c'est quelque chose qui s'est passé parmi les auditeurs dans les années 70, 80, certains se souviennent, les dévaluations à l'époque de Mitterrand, le franc chute, on doit demander aux Allemands une réévaluation de la monnaie de leur part pour que ce soit pas seulement une dévaluation du franc, les Italiens jouent la lire contre nous, la livre sterling s'écroule. Quand on est dans un système totalement désorganisé de monnaie, il faut savoir. Vous avez dit, monsieur, que vous aviez un revenu modeste qui aurait un impact sur votre pouvoir d'achat. Il y aurait une incertitude qui fait que certaines entreprises ne vont pas investir et donc pas forcément créer des emplois. Nous sommes pour la stabilité et la réforme dans le cadre connu.
On va poser maintenant la question de Francis à Édouard Ferrand qui est en ligne avec nous. Monsieur Ferrand, vous avez entendu Francis. Vous, au Front National, vous souhaitez clairement quitter la zone euro?
Alors d'abord, je vais vous expliquer un petit peu quelle est notre stratégie par rapport à la mise en place d'une souveraineté économique et financière. L'euro, monnaie unique, c'est la litanie sans fin des politiques dites d'ajustement. En 1999, lorsqu'on a mis en place l'euro, on nous a dit, vous allez voir, on va substituer l'euro au franc, il y aura plus de croissance, plus de pouvoir d'achat, moins de chômage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est la fin de mois, en début de mois, pour beaucoup de ménages français. Et donc, cette situation nous conduit à dire que l'euro, monnaie unique, a conduit à des politiques d'austérité dramatiques, notamment, je pense à la Grèce, qui a perdu 25% de son PIB, chose économique rarement vue dans l'histoire de l'Union européenne. Et faisons un autre constat, regardons quels sont les pays qui s'en sortent le mieux. Les cinq pays qui s'en sortent le mieux en Europe, c'est au niveau de la croissance, c'est la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Angleterre et la Suisse. Ça montre bien aujourd'hui que ces cinq pays ne sont pas membres de la zone euro, mais ont une croissance supérieure aux pays de la zone euro. Et dernier constat, avant de vous répondre sur notre stratégie, c'est de dire que aujourd'hui, malheureusement, la région Europe a la plus faible croissance des régions mondiales, et donc c'est une situation qui aujourd'hui nous alerte et nous impose de choisir une autre stratégie.
Alors cette stratégie, s'il vous plaît,
l'euro, pour nous c'est possible.
Alors expliquez-nous un petit peu exactement quels sont les projets du Front National concernant la sortie. Alors d'abord de l'Union, de l'euro, parce que moi j'ai pas tout compris. Vous voulez d'abord négocier globalement sur l'appartenance à l'Union européenne, faire un référendum, sur quoi exactement? Sur l'euro, pas l'euro? Qu'est-ce que vous allez faire?
Non, Marine Le Pen est très claire sur le sujet. Elle a tout à fait regardé le modèle du Brexit, c'est-à-dire que lorsque les Anglais ont retrouvé leur souveraineté, ils ont d'abord entamé avec David Cameron une période de négociation, ensuite qui a été suivie par Theresa May, et suite à cette négociation, ils ont déclenché l'article 50. Donc nous, on est tout à fait dans le même état d'esprit.
Les négociations n'ont pas commencé, Monsieur Ferrand.
Marine Le Pen entend justement mener des négociations pour ajuster la politique monétaire française, parce que c'est aujourd'hui ce que subissent malheureusement le chômage, c'est ce que subissent aujourd'hui la plupart des pays de la zone euro. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire une négociation, et à la fin de cette négociation, c'est de soumettre par référendum le nouveau projet français par rapport aux exigences européennes.
Attendez, c'est de soumettre à référendum l'appartenance, pardonnez-moi, Monsieur Ferrand, qu'on comprenne bien, l'appartenance à l'Union, qu'est-ce que vous soumettez exactement à référendum?
Non, Marine Le Pen veut refonder l'Europe, elle veut proposer un traité alternatif à celui de l'Union européenne, elle veut tout à fait garder des dispositifs tels que le Parlement européen, mais qui serait qu'un dispositif consultatif, elle veut garder le Conseil européen, parce que les votes se feraient non pas à la majorité qualifiée, mais à l'unanimité. Elle est tout à fait européenne. Nous avons un projet qui est tout à fait européen, et donc que ce soit pour la monnaie.
Bon, alors d'accord, Marine Le Pen, imaginons, est élue le 7 mai prochain. Elle convoque ou elle invite les autres chefs d'État et de gouvernement de l'Union à supposer qu'ils viennent la voir pour renégocier, et ensuite elle soumet à référendum quoi? L'appartenance à l'Union européenne, c'est ça?
Non mais
c'est important qu'on comprenne, parce que c'est quand même un sujet majeur.
L'avenir de la zone euro, aujourd'hui, non mais attendez, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui l'avenir de la zone euro, c'est l'alignement total des politiques économiques, budgétaires et financières.
C'est
un éclatement programmé, parce qu'aujourd'hui, les économies européennes n'ont pas le même niveau. Donc l'idée de Marine Le Pen, c'est de revenir à une souveraineté économique et financière, de manière à permettre à l'économie française de se réajuster par rapport à une monnaie aujourd'hui qui est trop forte. Et elle ne le fera pas d'une manière unilatérale, elle entend engager, comme l'ont fait les Anglais, une procédure de négociation pour pouvoir justement adapter, ajuster ce nouveau projet économique que sera celui de Marine Le Pen.
Merci.
Et en fonction de ça, elle soumettra, comme elle l'a dit, puisque c'est son principe de république référendaire, elle soumettra justement ce principe par référendum aux Français.
Mais j'ai toujours pas compris, c'est l'euro ou c'est l'appartenance à l'Union? Parce que ce sont deux choses différentes. On peut sortir de l'eurogroupe et de la zone euro en restant dans l'Union européenne, on peut imaginer ça, non? C'est pas possible? Sylvie Goulard?
Non, je voudrais, si vous permettez,
si vous voulez,
pour les téléspectateurs...
On peut tout à fait, c'est le programme de Marine Le Pen, revenir au franc tout en gardant l'euro, c'est-à-dire que les ajustements se feraient par des variations limitées des parités monétaires, et ce serait un atout justement à l'intérieur de la zone euro, ainsi qu'à l'extérieur. Ce serait une monnaie qui aurait cours face au dollar, notamment, et éventuellement au yuan. Mais le principe et le projet est tout à fait clair. Je veux dire, on ne surprend personne par cette déclaration.
Merci beaucoup.
Si les négociations à Bruxelles nous permettent d'avoir la politique de revenir au franc et de garder l'euro, si cela est possible, on le fera.
Merci Sylvie Goulard.
Écoutez, c'est très bien que vous vous soyez à ce point, je dirais, dégonflé comme les pneus de Francis, parce que, premièrement, vous venez nous expliquer que vous gardez l'euro et le franc en même temps. Moi, j'aimerais simplement savoir si les Français auront deux cartes bleues, s'il y aura deux types de billets qui circulent. On voit bien que vous êtes parti au départ de la campagne en disant que vous sortez de l'euro. Comme vous vous rendez compte que ça n'est pas possible, vous dites qu'on aura deux monnaies en parallèle. Sincèrement, je ne crois pas qu'un seul auditeur a pu comprendre ce que vous disiez. Deuxièmement, non, vous comparez... Laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé...
Édouard Ferrand, est-ce qu'on peut écouter Sylvie Goulard juste une seconde?
On va continuer avec l'euro.
Merci.
J'aimerais bien simplement pouvoir faire remarquer des choses à nos auditeurs, et notamment à Francis qui nous a posé la question. Lorsque vous comparez avec le Royaume-Uni, la comparaison est une comparaison qui induit en erreur, puisque les Britanniques n'appartiennent pas à l'euro. Donc pour les auditeurs, un petit point juridique. On peut sortir de l'Union européenne, c'est l'article 50 qui a été introduit tardivement, mais les pays de la zone euro n'ont pas a priori la possibilité de sortir de l'euro. Donc ce que vous voulez faire, c'est remettre en cause un engagement solennel et irréversible de la France vis-à-vis de nos partenaires de la zone euro. Ça n'est pas une mince affaire. Je ne dis pas que c'est infaisable, je dis que ça aurait un coût qui fait que probablement la monnaie nouvelle dans laquelle les Français seraient payés et devraient faire leurs achats, aurait moins de valeur. Donc je pense que si Francis m'écoute toujours, il comprendra que si la monnaie est dévaluée, il aura moins d'argent pour faire le plein, moins d'argent pour acheter des produits importés. C'est même votre objectif de dévaluer la monnaie. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne joue pas avec la monnaie des gens. On ne joue pas avec l'épargne. On ne joue pas avec la parole de la France. Si vous avez un projet qui tient la route, on peut imaginer d'aller le négocier avec les autres. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas un corset, l'Union européenne. Mais il faut pour cela avoir un projet qui se tient. Je vous ai vu au Parlement européen. Vous ne fréquentez que des extrémistes. Vous n'avez pas de contact avec seul... Mais il n'y a pas un seul...
Mais c'est quoi vos invectives,
madame ? Je dis simplement que quand vous regardez...
Donnez-moi un exemple.
Je vais vous donner un exemple. Madame Merkel est d'un pays qui est gouverné par un parti qui n'appartient pas du tout à la sphère à laquelle vous appartenez. L'Italie non plus, l'Espagne non plus, le Royaume-Uni non plus, le Danemark non plus. Je peux vous en donner plein des exemples. Je vous en donner dans 27 pays. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, un autre pays d'Europe qui est prêt à se lancer dans une renégociation hasardeuse dont on ne sait même pas très bien quel est l'objectif quand on vous entend. Donc moi, je crois que les auditeurs doivent
savoir. Mais vous êtes pour quitter la France parce que vous êtes pour une Europe fédérale. Vous êtes pour une Europe supranationale. Et d'ailleurs, votre nouveau mentor, parce qu'après avoir fait pas mal de partis politiques, aujourd'hui, vous avez suivi Emmanuel Macron, et il a un projet totalement irréaliste. Lui, son but, c'est de créer un ministre des Finances, comme le voulait Pierre Moscovici, de la zone euro. Et je crois que les Français, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'aujourd'hui, l'euro a provoqué une flambée inédite et massive des prix.
Ça,
aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir
faire
les fins de mois.
C'est l'euro, absolument faux.
L'euro,
la Banque de France a des chiffres dont il ressort très clairement...
Vous monopolisez beaucoup la parole, madame.
Oui, mais vous dites des choses erronées, monsieur.
Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Ferrand? Une question.
Parce qu'en fait, vous soutenez un euro qui est un échec en nous faisant croire que demain, ça ira mieux. Moi, je dis qu'au contraire, la mise en place de l'euro a affaibli nos économies et a permis justement...
Monsieur Ferrand, est-ce que je peux vous poser une question?
Et que c'est un facteur d'inflation déguisée, c'est l'appauvrissement de nos populations.
Est-ce que je peux vous poser une question? L'appartenance à l'Union européenne sera donc soumise à référendum. Marine Le Pen a dit que si les Français souhaitaient rester dans l'Union européenne, elle quitterait le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous donner une échéance pour l'organisation de ce référendum?
Non, mais il est clair que si aujourd'hui...
C'est quoi? C'est dans un an ou dans cinq ans?
Non, mais il est clair qu'aujourd'hui, si la France quittait l'Union européenne, ce serait l'implosion de l'Union européenne. Aujourd'hui, on le voit bien, l'Union européenne ne répond pas aux aspirations des peuples. Partout en Europe, il y a la montée de ce que vous appelez des mouvements populistes, c'est-à-dire que les gens veulent une autre Europe. C'est pas une Europe économique qu'ils voulaient, c'est une Europe politique. Et on voit qu'on a mis tout en place de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas une union politique, puisque Maintenant, le grand projet aujourd'hui des amis de Mme Goulard, c'est de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Et notamment, on prépare en ce moment au Parlement européen un accord économique de libre-échange avec la Turquie. Est-ce que c'est ça le projet dont veut
Alors, elle va vous répondre tout de suite. Écoutez, Monsieur Ferrand, elle va vous répondre et ensuite on repart au standard de France Inter. Il y a du monde qui veut s'exprimer aussi. Sylvie Goulard, vous lui répondez sur la Turquie. Ensuite, on repart au standard.
Deux points. C'est très amusant. Là, vraiment, vous savez, au jeu des sept familles, c'est mauvaise pioche, Monsieur Ferrand. Parce que j'ai écrit un livre en 2004. Par lequel j'ai pris clairement position contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Premier point. Deuxième point, plus important. Vous êtes député européen, mais vous semblez ignorer que nous avons voté à la majorité en janvier dernier le gel des négociations d'adhésion avec la Turquie.
Oui,
donc ce que vous dites n'est absolument pas juste.
On repart comme promis.
C'est entièrement vrai. Bon. Madame, je fais partie à la fois de la délégation avec la Turquie
Merci,
et je fais
Edouard
partie de la commission commerce international.
On repart au standard de France Inter parce qu'on va changer de sujet. On a beaucoup de sujets à aborder ce soir.
Non, attendez, je voudrais vraiment finir là-dessus parce que j'ai été gravement attaqué par Madame Goulard. Je voudrais simplement répondre qu'à la dernière commission commerce international, j'ai justement expliqué le double jeu. C'est-à-dire qu'en séance, on a gelé l'acte d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, mais en même temps, on continue l'accord de libre-échange avec la Turquie. Et c'est ça l'Union européenne, parce que les Turcs, en fait, le voient bien et disent « mais arrêtez de nous imposer une marche à rythme forcé, puisque finalement, on ne sait pas sur quel pied vous voulez danser ». Et moi, je sais que tous les amis de Mme Goulard, notamment le PPE ou le groupe des centristes, l'ALDE, ce sont des gens qui sont pour l'adhésion de l'Union européenne. Non. De la Turquie.
C'est faux, elle va vous le répéter.
C'est franchement, encore une fois, je crois qu'il faut qu'on passe à une autre question, mais vous déformez, et les auditeurs peuvent se reporter aux informations qui existent sur le site du Parlement européen, la position du PPE auquel je n'appartiens pas est d'être contre l'adhésion de la Turquie, et dans mon groupe, personnellement, je suis contre, de même que toute la délégation française. Donc il ne s'agit plus de raconter à ce point des salades aux Français.
On repart au standard de France Inter. Pardonnez-moi, Monsieur Ferrand, on repart au standard de France Inter. Il y a Marc qui est en ligne et qui veut nous poser une question. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les intervenants. Moi, je suis pour l'Europe et je trouve que pour ce qu'il faudrait surtout, c'est pour toutes les propositions que je souhaite intervenir. Donc, je trouve qu'il faut rendre l'Europe attractive pour les Français et surtout vis-à-vis de nos proches voisins, tous les pays européens qui nous bordent. Je trouve il y a un bon exemple ce soir puisque le tram de Strasbourg est allé à Kiel pour la première fois. Et donc c'est un premier point et je trouve qu'il faudra le multiplier. Il y a déjà des coopérations transfrontalières, mais il faudrait les développer. Et aussi donc il faudra insister sur le fait que sur les valeurs communes de l'histoire, les valeurs culturelles que nous partageons, les diffuser, les faire connaître vraiment, que ce soit accessible et qu'on s'en rende vraiment bien compte. Et puis aussi au niveau scolaire, enfin au niveau linguistique. Ce serait bien de ne pas être seulement bilingue avec l'anglais qui sert de... Enfin, j'ai rien contre l'anglais, mais enfin, c'est vraiment la langue véhiculaire, mais il faudrait développer d'autres langues, les langues des voisins.
Vous avez plein de projets, Marc. Hein.
Voilà.
Un grand merci.
Et moi, je crois qu'en étant, par exemple, en maniant facilement, mais dans les deux sens, les langues de nos proches voisins, tout autour de la France, eh bien, je crois que ça pourrait aider déjà à mieux se comprendre et à faire avancer l'Europe.
Merci beaucoup, Marc, pour cette intervention sur cette envie d'Europe, Sylvie Goulard, cette envie de Marc. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ?
Bon, d'abord, Marc, merci d'être positif parce que ça fait plaisir par rapport à des gens qui veulent tout casser. Je vais vous donner deux mesures d'Emmanuel Macron qui me paraissent aller dans votre sens. La première, c'est de doubler le nombre de jeunes qui pourraient partir en échange Erasmus et de faire en sorte que ce ne soit pas seulement des jeunes étudiants, mais beaucoup plus de jeunes qui sont dans des formations de type technique ou des apprentis, etc. Donc, premièrement, doubler le nombre d'Erasmus, faire en sorte justement que les jeunes traversent les frontières et ces expériences, ce qui est une manière aussi d'apprendre les langues sur le tas, si j'ose dire. Et la deuxième mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est le rétablissement des sections européennes et des classes bilingues que le gouvernement précédent, enfin finissant, a supprimé, ce qui me paraît une très grave erreur parce que ces classes, je rends d'ailleurs hommage à tous les professeurs qui souvent se sont défoncés pour emmener leurs élèves à l'étranger, pour faire des projets de coopération, ces classes sont l'un des moyens dans bien des établissements de conserver de la mixité sociale, elles existaient y compris dans des ZEP, y compris dans des zones rurales, donc il y a une volonté d'ouverture, Marc, ne soyez pas inquiet, si Emmanuel Macron est élu, on ira dans ce sens-là. Et votre remarque sur le trame est extraordinaire. Parce que tous ceux qui ferment les frontières ne disent jamais, tous ceux qui prônent de fermer les frontières, ce qui arrivera pour tous les frontaliers. Vous avez à Strasbourg énormément de gens qui vont travailler du côté allemand, de même qu'entre la Lorraine et le Luxembourg. Et pour toutes ces personnes-là, la fermeture des frontières serait une catastrophe au quotidien.
Alors justement, la transition est toute trouvée pour Monsieur Ferrand. Monsieur Ferrand, les frontières, évidemment, dans le projet de Marine Le Pen, on revient aux frontières nationales.
Cet auditeur dit qu'il faut rendre un peu plus attractive l'Europe. Moi, je crois que l'Union européenne applique le projet diabolique des Nations unies, qui a été lancé, il me semble, c'était en 2000. C'était le projet Millennium, qui consiste à envoyer en Europe entre 50 et 80 millions de migrants dans les 30 ans à venir. Et d'ailleurs, on le voit bien avec Mme Merkel, parce que sa politique d'immigration qu'elle a mis en place avec le trio funeste Hollande et Juncker, c'est justement la mise en place d'une submersion migratoire qui a malheureusement aussi engendré le terrorisme. Moi, je pense qu'au contraire, revenir à des frontières légitimes, puisque la France aspire justement à avoir plus de sécurité, et on l'a bien vu d'ailleurs, tous les modèles européens qui ont été Frontex, Triton, ont non seulement échoué, mais ils ont accéléré même la machine à immigration. Je crois qu'il faut d'abord aider les nôtres avant d'aider les autres. Je crois que malheureusement, il y a une grave crise économique en France.
Donc on sort de Schengen, on remet les frontières.
Mais bien sûr.
Parce que
sûr.
Je précise quand même qu'on peut ne pas faire partie de l'Union et faire partie de Schengen, ce qui est le cas de la Suisse. Vous sortez aussi de Schengen.
Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'Italie et la Grèce n'ont pas du tout les moyens d'assurer la protection à leurs frontières. Et donc, il faut mettre un véritable système de protection de nos frontières et de ne pas penser que l'Union européenne, en mettant des frontières à l'extérieur de l'Union, arrive à faire quelque chose.
Et qu'est-ce que vous dites à tous les frontaliers qui, au quotidien, vont travailler dans un pays voisin et à qui Schengen a quand même sacrément facilité la vie?
Moi, je pense que si vous voulez, d'abord, on a tronqué le terme. Les migrants sont avant tout des clandestins. Et que, avant tout, je pense...
Je ne vous ai pas parlé des migrants, je vous ai parlé juste des gens qui vont travailler de l'autre côté de la frontière.
Vers leur pays d'origine, parce qu'ils sont entrés illégalement dans l'Union européenne. Et je pense que, si vous voulez, on ne peut pas rendre attractif l'Union européenne à partir du moment où on est confronté à cette submersion migratoire. Et ça, c'est l'un des premiers projets du Front National, bien sûr, c'est de restaurer non seulement la souveraineté économique et financière, mais aussi la souveraineté politique et à nos frontières.
Sylvie Goulard.
Non, moi je voulais juste faire remarquer deux choses. La première, c'est que nous sommes très désireux de protéger les Français, mais que tous les services de sécurité nous disent que ça n'est pas en filtrant tous les jours, et vous n'avez absolument pas répondu sur ce point-là, des gens honnêtes qui vont travailler de l'autre côté de la frontière en partant de la Moselle ou en partant de l'Alsace, c'est pas en les contrôlant tous les jours à l'aller et au retour que vous empêcherez qu'il y ait des problèmes de terrorisme. On l'a vu à Nice. C'est malheureux, c'était un terroriste local ayant loué un camion localement. Il n'y a pas eu de problème de transfert des frontières. De même, on l'a vu récemment avec la personne qui a tué le policier la semaine dernière. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous ne protégez pas les Français en prenant ce genre de méthode. Ce qui est efficace, c'est des coopérations de services secrets, c'est de viser des milieux très particuliers. Ça n'est pas ce que vous racontez. Et la fermeture des frontières aurait un coût économique, au-delà des frontaliers qui ne peuvent pas aller travailler. Il y a un coût économique. Vous imaginez un peu tous les camions qui transportent, d'ailleurs, y compris des produits français que nous souhaitons continuer à exporter, des matières agricoles qui partent en Allemagne, qui partent en Pologne, ou des choses qui arrivent d'autres pays de l'Union européenne vers chez nous. Il y aurait des queues interminables et vous désorganisez la manière dont fonctionnent plein d'entreprises. Donc je crois que vous avez vraiment fait la démonstration que d'abord, vous ne répondez pas aux questions. Vous agitez toujours la peur de la migration, y compris quand on pose des questions extrêmement pratiques et concrètes.
Vous ne la voyez pas.
Ah, mais pas du tout. Nous sommes tout à fait favorables à ce qu'il y ait une politique très sérieuse en matière d'immigration, mais il ne faut pas tout mélanger et il ne faut pas faire des immigrés les épouvantails du débat politique.
Merci Sylvie Goulard, merci Edouard Ferrand, repart au Standard de France Inter. Charif est en ligne depuis la Savoie. Bonsoir à vous et bienvenue sur l'antenne d'Inter.
Bonsoir à tous les auditeurs et puis à tous les intervenants. Moi, je voulais intervenir, donc je travaille pour Thales, le comité d'entreprise en Savoie. Et il y a eu beaucoup de travaux en ce moment. Alors moi, je suis ouvertement pro-européen et j'adhère vraiment pas du tout au discours du Front National. La vraie question, je pense, c'est ce qui fait peur un peu dans ce qu'on peut entendre dans ces discours, c'est que les Français veulent se protéger, cela je l'entends bien. Par contre, je pense que c'est une hérésie dans ce monde complètement instable de sortir de l'Europe. Par contre, c'est vrai qu'on peut sentir, notamment dans ce que je vous décrivais, la période de travaux, dans les travailleurs détachés, une espèce d'injustice ou de déséquilibre dans l'Europe, d'harmonisation des salaires, des droits. Et ça, ça fait peur. Donc on voit à travers ça que l'Europe a été plus construite autour d'intérêts économiques et que oui, il faut rester européen, mais il est temps la question en fait c'est est-ce que une nouvelle politique est encore possible pour harmoniser les droits des travailleurs? Et je pense que ça apporterait beaucoup Merci. De sécurité et de réconfort à tous les Européens, les pro-européens et peut-être un peu plus d'optimisme à ceux qui veulent en sortir, alors que c'est une hérésie totale dans le monde dans lequel on vit.
Merci,
aujourd'hui,
Sharif.
On parle de mondialisation, et là, il y a des gens qui veulent sortir de l'Europe, et ça fait juste flipper.
Merci, voilà. Sharif. Merci beaucoup. Édouard Ferrand, vous voulez sortir de l'Europe, mais concernant, par exemple, les travailleurs détachés dont parlait Sharif, vous voulez vous supprimer cette directive carrément tout de suite?
Alors, tout d'abord, je l'ai déjà répété en début d'émission, nous sommes pro-européens, notre projet est européen, mais nous voulons sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je me sens pro-européen. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne ne répond pas aux aspirations des peuples. Et à l'intérieur, si vous voulez, l'Union européenne, les amis de Mme Goulard n'ont jamais réussi d'ailleurs à faire l'harmonisation fiscale et sociale, puisque tous sont bien évidemment enclins à protéger leurs petits précarés. Je pense notamment au Luxembourg et le LuxLeaks de l'ami de
Alors,
de Mme
on
Goulard,
va parler dans un instant du problème de l'harmonisation fiscale, mais sur les travailleurs détachés, si vous pouviez nous répondre.
Oui, sur les travailleurs détachés, moi je dis tout simplement et clairement, il faut refuser le dumping social à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc, bien évidemment, il faut abroger la directive des travailleurs détachés qui a été créée en 96 et puis aller encore plus loin. C'est le programme de Marine Le Pen, c'est de taxer les produits qui entrent en Europe, d'entreprises qui délocalisent leur production, notamment des taxes à 35%, la taxe additionnelle sur les travailleurs étrangers. Voilà, il faut aujourd'hui produire français et donner la priorité justement aux entreprises françaises.
Merci.
C'est le grand projet de Marine Le Pen.
Merci Edouard Ferrand. On avance parce que l'heure tourne.
Dans un accord de coopération avec des pays européens.
Je vous presse un peu parce qu'il y a encore plein de sujets.
On veut nous enfermer, dans une stratégie, nous faisant peur aux gens en disant que nous sommes contre l'Europe. Non, nous sommes profondément européens. Marine
Merci.
Le Pen veut refonder l'Union européenne.
Voilà. Suppression de la directive sur les travailleurs détachés. Sylvie Goulard, que
Alors,
faites-vous, vous, avec Emmanuel
d'abord,
Macron?
Sharif a tout à fait raison. C'est une vraie difficulté. Je pense qu'il faut juste faire un pas en arrière et expliquer ce qui s'est passé aux auditeurs lorsque les pays d'Europe centrale et orientale sont entrés dans l'Union européenne. Quand ces pays sont entrés dans l'Union européenne, entre 2004 et 2007, nos entreprises ont bénéficié de l'accès à leur marché. Et nos entreprises, nos banques, nos compagnies d'assurance, nos groupes de distribution se sont implantés. Quand on va dans la banlieue de Gdansk ou quand on va à Prague, on voit de nombreuses enseignes de chez nous qui sont rentrées dans ce marché très facilement puisque nous étions plus compétitifs. La contrepartie que ces pays ont voulu, j'insiste bien que ces pays ont voulu, c'était un accès plus facile de leurs travailleurs vers nos marchés. Pourquoi ? Parce que les différences de développement économique sont telles que là-bas, les salaires sont très très bas et que faciliter sous certaines garanties leur venue provisoire sur des chantiers, etc., c'était aussi un moyen d'élever leur niveau de vie. On ne peut pas, en matière économique, contrairement à ce que prétendent certains, décider l'élévation du niveau de vie sur un coin de table. Il faut que ça se fasse progressivement. C'est en cours dans ces pays. Et d'autre part, nous sommes en train de renégocier cette directive afin de limiter certains abus. Directive qui a d'ailleurs été extrêmement utilisée par des entreprises françaises pour détacher dans d'autres pays, avec les avantages du système français, un certain nombre de cadres ou de salariés. Donc, Sharif, qui était tout à l'heure au téléphone, a raison d'insister sur le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Nous sommes en train de le corriger. Mais je crois qu'il faut avoir la vision d'ensemble.
On repart au standard de France Inter. Simon est en ligne à présent. Bonsoir oui. Simon, bienvenue à vous.
Bonsoir, j'aimerais soumettre une question à Madame Goulard au niveau du programme de Monsieur Macron en matière de politique fiscale européenne. Autrement dit, au niveau des impôts des sociétés qui est différent dans chaque pays et qui permet à des grosses entreprises de faire du dumping social. Et ça revient en quelque sorte à faire une course à celui qui paiera le moins d'impôts.
Merci beaucoup Simon pour cette question. Corinne nous pose la même sur Internet.
Excellente question. Personnellement, j'ai toujours été favorable à ce que nous allions... J'ai été l'un des rapporteurs d'un texte qui vise à créer une seule assiette pour l'impôt sur le société, c'est-à-dire pas toucher tout de suite les taux parce que c'est assez compliqué déjà de convaincre les partenaires. Parce que dans notre discussion ici, moi je tiens à réintroduire un principe de réalité. On peut raconter ce qu'on veut au micro de France Inter ou sur des estrades pendant une campagne. Je suis favorable pour ma part à ce qu'on aille vers l'harmonisation fiscale. Simplement, il y a des pays en ce moment qui ne le veulent pas. Et quand certains disent le petit pré carré du Luxembourg, pour les Luxembourgeois, M. Ferrand, ça s'appelle leur souveraineté. Donc vous êtes extrêmement souverainiste quand il s'agit de la France. Quand il s'agit des autres, c'est leur petit pré carré. Personnellement, je suis pour cette raison favorable à ce qu'on décide à l'unanimité et non plus avec des veto. Parce que si je puis me permettre, si nous sortions, admettons un instant, nous sortons de l'Union européenne, qu'est-ce qui empêcherait les pays voisins de la France de devenir des paradis fiscaux et de nous faire une concurrence complètement déloyale?
Mais c'est vrai,
nous
Sylvie Goulard, comment on fait pour forcer un peu la main du Luxembourg?
Alors, en ce moment, non, mais le Luxembourg a changé de position. Il y a eu un travail qui a été fait par des journalistes qui a abouti à LuxLeaks. Il y a eu aussi une décision de la Commission européenne prise par Mme Vestager qui a consisté pour l'Irlande a imposé une amende de 13 milliards d'euros à Apple parce que justement la firme Apple avait négocié avec l'Irlande des conditions totalement léonines. Et la commission s'est illustrée dans ce cas à aller réclamer à une multinationale américaine de l'argent. Vous savez déjà, face à l'ensemble de l'Union européenne, les multinationales américaines sont extrêmement puissantes. Je ne crois pas que chacun de nos États pris séparément aurait beaucoup plus de moyens d'empêcher que des entreprises aillent s'installer ailleurs dans des pays qui, si nous étions dans un jeu totalement de destruction mutuelle, finirait par chercher à aller vers le bas et à faire du dumping fiscal. Donc pour résumer, premièrement, Simon, vous avez raison, on va se battre. Personnellement, j'ai déjà commencé à faire cette bataille. L'OCDE, qui est un organisme, fait un gros travail aussi pour pousser à l'harmonisation fiscale. Il faut qu'on y arrive, mais ça suppose de convaincre les partenaires. Et si nous revenions complètement à un système où tous les États sont souverains, comme le propose le Front National, je ne vois pas en quoi nous aurions plus de moyens pour peser sur nos partenaires européens.
Merci Sylvie Goulard. On laisse répondre Édouard Ferrand.
Oui, écoutez, c'est une question qui est très, très intéressante, parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme je le disais, tous les européistes convaincus n'ont pas réussi à faire une harmonisation fiscale et sociale, comme on l'a vu avec la directive détachement des travailleurs. Parce que ce n'est pas de la compétence de l'Union européenne. Et l'Union européenne veut, sur un certain nombre de sujets, comme sur le fiscal, le social, la famille, créer des directives et des règlements pour les voir s'appliquer aux parlements nationaux. Donc c'est un viol manifeste du principe de subsidiarité sur lequel nous sommes profondément attachés. Mais évidemment, quand on a une vision très supranationale, on ne voit pas l'intérêt national. Et moi, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que chaque État doit organiser, bien évidemment, sa fiscalité dans le cadre de sa relance économique. Mais surtout, je dirais que les deux mots de l'Union européenne que Mme Goulard semble ne pas voir, ou du moins elle veut les éviter, c'est d'abord une Europe à 34, puisque aujourd'hui nous sommes 28 qui composent l'Union européenne. Il y a 6 pays qui frappent à la porte, hein, comme la Serbie, la Macédoine, et bientôt la Turquie. Une Europe à 34, c'est une Europe ingouvernable. Et d'autre part, le deuxième mal...
Alors, je crois qu'on est sorti un petit peu du sujet. Excusez-moi. Édouard Ferrand, on était en train de parler de l'harmonisation fiscale.
Des barrières douanières,
on est en train...
Plus grave. Une harmonisation fiscale.
On est en train de s'éloigner de notre sujet. Moi, j'aimerais qu'on en aborde un autre sujet qui a fait la une de l'actualité cette semaine. C'est le cas Whirlpool. Savoir si, effectivement, l'Union européenne peut faire quelque chose dans un tel cas. Si elle a une part de responsabilité, oui ou non, par rapport à ce qui se passe en ce moment, cette délocalisation, Sylvie Goulard, de l'usine Whirlpool d'Amiens. Emmanuel Macron a mis en cause la Pologne aujourd'hui, hier.
Oui, non, mais il est évident qu'on a une situation qui est difficile et dans laquelle il y a des délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne. Je tiens à préciser que même si on sortait de l'Union européenne, il pourrait y avoir des délocalisations dans d'autres pays. Il y a des entreprises textiles qui sont parties en Tunisie, par exemple, ou au Bangladesh, et on voit bien que le problème dépasse celui de l'Union européenne. La vraie difficulté, quand on a affaire à des salariés qui perdent leur travail, c'est d'abord de ne pas aller exploiter leur misère en leur promettant n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen? On peut se défendre mieux en termes de dumping vis-à-vis du reste du monde, et c'est l'une des lignes que suit Emmanuel Macron, et il a prouvé quand il était ministre de l'économie qu'il était prêt à se battre, il l'a fait sur l'acier chinois. À Amiens, vous avez à côté une autre entreprise qui est Procter & Gamble, qui, elle, a besoin que la France garde des frontières ouvertes, parce que des emplois dans l'Amiénois, dans cette région-là, sont liés au fait d'exporter. Donc il n'y a pas de solution simple. Si vous fermez les frontières, vous allez avoir d'autres pays qui vont à leur tour fermer leurs frontières pour se protéger.
Comment on fait pression sur la Pologne? On ne peut rien faire, en fait. C'est quand même un constat d'impuissance, là.
Mais c'est pas seulement, je veux dire franchement, c'est pas seulement une question de Pologne ou pas Pologne. C'est une question de savoir, et c'est pour ça que les mesures que Emmanuel Macron propose en termes de baisse des charges sur les salaires sont importantes. Il faut qu'on arrive à passer. En France, le travail est pénalisé. On a un système de protection sociale qui a accroît les coûts de fabrication chez nous par rapport à d'autres pays. Mais je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. Encore une fois, même si nous réglions le problème en réduisant par une fiscalité et des coûts sociaux plus intelligents le problème de la main-d'œuvre, il resterait que nous avons en ce moment, dans la mondialisation, des gens qui, dans d'autres pays, sont prêts à travailler à des coûts inférieurs et donc des entreprises qui continueront à se délocaliser.
On passe la parole à Édouard Ferrand sur ce cas Whirlpool.
Oui, bien sûr, c'est un cas très emblématique puisque Marine s'est fait acclamer en allant à Amiens et Macron s'est fait siffler parce que...
Oui, alors on ne va pas revenir sur l'épisode de mercredi. Concrètement,
si, c'est le vrai visage de ce qui se passe et de l'inquiétude des
concrètement, vous pensez qu'en sortant de l'Union européenne, le problème serait réglé?
Mais aujourd'hui, si vous voulez, les délocalisations permettent à des entreprises, alors que on aurait pu rénover cette usine pour qu'elle soit encore plus opérationnelle.
Mais qui ont...
Et malheureusement, ils ont préféré aller sacrifier 280 salariés de Whirlpool pour aller aller en Pologne et faire en sorte que, eh bien, les salaires soient moins onéreux pour l'entreprise. Et je crois que Marine Le Pen, c'est son combat aujourd'hui. Hein. C'est les deux jambes de son action politique, c'est l'économie et l'identité. Et sur l'économie, elle a dénoncé justement ces entreprises qui malheureusement ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'ils préfèrent toujours faire du profit sur le dos des salariés. Et je crois qu'il faut en revenir à un constat qui est très simple, c'est que tout est permis aujourd'hui par l'Union européenne et que maintenant il faut en revenir à un système où on puisse protéger les entreprises, notamment ce que propose Marine Le Pen, c'est-à-dire une taxe de 35% sur les entreprises qui délocalisent et qui revendent après en France, une taxe additionnelle sur les travailleurs étrangers qui viennent en France, parce qu'il faut, si vous voulez,
merci,
refaire...
Je suis obligée de vous couper, Édouard Ferrand, parce que l'heure tourne et que Sylvie Goulard veut vous répondre et que j'ai une dernière question à vous poser.
Je voulais simplement attirer l'attention des auditeurs sur un truc tout bête, c'est qui paye les taxes? Vous n'arrêtez pas de dire on va mettre des taxes, on va mettre des taxes sur les produits qui rentrent, on va mettre des taxes sur... Ce sont les contribuables français qui paieraient vos taxes. Ça veut dire que ce sont des gens dont le pouvoir d'achat serait réduit par le fait qu'on leur impose, on leur met des impôts supplémentaires. Si c'est ça la solution, je ne pense pas que les Français seront ravis. Parce que vous allez augmenter le prix des produits qu'on importe. On ne produira pas du café ou du cacao en France demain matin. On ne va pas produire du pétrole non plus. Il y a bien des produits importés qui sont indispensables. Et je pense par exemple au plein qui pèse si lourd dans le ménage des familles qui ont besoin de la voiture pour aller travailler. Donc quand vous n'arrêtez pas de dire que vous imposez des taxes, moi j'invite juste les Français à se demander qui les paiera.
Et moi j'ajoute une question
économique, madame.
Moi j'ajoute aussi une question. Oui. Répondez, oui. Vous pouvez répondre à Sylvie Goulard et Édouard Ferrand.
Oui, parce que le patriotisme économique, c'est l'arme essentielle pour donner à la France sa souveraineté économique et qu'il convient aujourd'hui d'incorporer dans les négociations justement les ouvriers, parce que là, si vous voulez, on voulait leur imposer un plan de restructuration, des aménagements d'horaires et une diminution de leur salaire. C'est plus possible, ça.
Vous n'avez pas répondu sur les taxes, monsieur Ferrand. Vous ne dites pas aux Français que leur pouvoir d'achat sera amputé du montant des taxes diverses et variées que vous voulez leur imposer. Et s'agissant des ouvriers d'une entreprise, il faut traiter les cas un par un en proposant des parcours de formation et pas raconter des choses aussi vagues. Chaque fois qu'on vous pose une question précise, vous vous en éloignez. Je suis désolée, vous n'avez pas répondu sur qui paierait les taxes.
Madame. Je crois qu'aujourd'hui, les Français, ils voient bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans une grande situation de détresse économique et que Whirlpool est justement l'exemple même de ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise veut tirer un maximum de profit sans consulter sa masse salariale, eh bien, elle prend un choix unilatéral de délocaliser. Ça, on n'en veut plus. On veut vraiment qu'aujourd'hui, on respecte le monde du travail. Ces salariés qui sont là depuis de très longtemps, puisque c'est une entreprise qui avait été reprise il y a une trentaine d'années. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut aussi donner la parole aux salariés et pas faire en sorte que le patron puisse faire n'importe quoi.
Une petite question qui nous parvient par mail, Édouard Ferrand. C'est un auditeur qui nous demande, est-ce que vous n'êtes pas gêné de critiquer les institutions européennes et de percevoir des indemnités parlementaires qui permettent à votre parti de vivre?
Mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on répond à l'appel d'un mandat qui nous a été donné par le peuple, donc nous représentons le peuple français au Parlement européen. Je vous rappelle que nous sommes la première délégation française, que nous sommes la quatrième délégation européenne, et que ce mandat, on l'assume pleinement, et c'est le mandat que nous a donné Marine Le Pen, et c'est un mandat qui nous permet justement de représenter les intérêts du peuple souverain français au Parlement européen.
Merci Édouard Ferrand, chef de cette délégation FN Rassemblement Bleu Marine au Parlement européen de Strasbourg. Sylvie Goulard, un dernier mot et l'émission sera terminée.
Moi, je dirais que comme Française au Parlement européen, je suis très triste de voir que vous avez violé toutes les règles et que vous avez utilisé l'argent européen en dépit de la contrainte qui est de ne pas financer les partis. Je laisse les Français juger ce que cela signifie. Merci.
Merci Sylvie Goulard. Merci à tous. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Irène Ménem, Jérémy Younes à la réalisation ce soir. Éric Lenné à la technique. Loïc Frapsos, Michel Bézikian, Raphaël Rousseau. Merci aussi aux standardistes de l'émission.